102.1, disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini, c'est du lundi au jeudi avec nous. Après notre sujet d'intro, toujours le fun de faire participer nos auditeurs de cette façon. Anto, ça passe ou ça casse pour les deux prochaines semaines pour Christine Fréchette, notre première ministre. Là, je savais pas ça, on va siéger jusqu'à 22h le soir, puis le vendredi aussi.
Ouais.
À Voyant, toi, Kim.
Ouais, enfin, ça travaille,
ben là, 30% d'augmentation, faut bien qu'on le voie en quelque part.
À chaque fin de session parlementaire, il y a ce qu'on appelle la session intensive. Vous savez que généralement, les députés vont siéger 3 jours par semaine. Le reste du temps, ils ne sont pas assis sur leur balcon. Là. Ils ont d'autres choses à faire, des activités, ils sont dans leur bureau de comté.
Oui, on sait bien, tournoi de golf en quelque part.
Ouais.
Souper spaghetti
Gala.
Un samedi soir.
Oui, ça.
Comme si on rêvait pas tous d'aller souper spaghetti là, du
centre
communautaire de notre coin.
Effectivement. Cela dit.
Gala, ça, c'est Charles Milliard.
Comment t'as fait pour deviner?
Ça va.
On l'a pas vu beaucoup la semaine passée, monsieur
Non.
Milliard. Mais en tout cas, il a pas slacké sur les
il
événements
était où,
mondains.
Là? Il était à l'Orchestre symphonique de Montréal.
Oui, ben, c'est important la culture.
Ben oui, je sais.
Mais c'est honnêtement, je sais pas combien de tuxedo monsieur Milliard possède, mais en ce moment, sont utilisés là.
On va-tu l'appeler le chef tuxedo?
Ah! Ben il s'appelle monsieur Milliard, tu sais.
Ouais, c'est
ça
vrai.
Fait prestigieux, fait que déjà à la base. Mais avant de parler de M. Milliard, qui n'était pas très, très présent dans la dernière semaine, Mme Fréchette, elle est très présente.
Mais hein.
Et il ne reste que 2 semaines à la session parlementaire. Bon, là, vous allez me dire, OK, mais après ça, il y a tout l'été jusqu'à la campagne électorale. C'est sûr que quand l'Assemblée nationale siège, c'est toujours plus intense au niveau politique.
Ben oui, t'es
là. Parce qu'on entend les oppositions.
Ben exactement, la preuve la semaine dernière avec les crédits budgétaires, comment on s'est amusé avec Christine Fréchette qui connaît pas le chiffre de la dette, puis Jean Boulay qui va être dans le camp du non.
Oui,
on s'amuse avec
ça,
exactement. Ça.
Dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'Assemblée nationale ne siège pas, le gouvernement a beaucoup plus le contrôle sur ses communications. Donc, on peut contrôler le message et la trame narrative. Quand il y a l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus imprévisible, c'est beaucoup plus les groupes d'opposition qui contrôlent ce qui se passe un peu et qui settent l'agenda, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il reste 2 semaines de session parlementaire. J'ai beaucoup entendu la semaine passée, après la mauvaise semaine de Mme Fréchette, des gens dire, tu sais, parce que moi, je trouvais que c'était une semaine normale de politicien normal, dans le sens que ce qui n'est pas normal, c'est quand tout le monde fait « Wow, bravo, excellent,
ben oui.
Sans faute, ça n'arrive pas, là, ça. »
C'est
un moment
non.
un peu étrange où, justement, l'Assemblée ne siégeait pas. Mais le contraste était tellement gros entre son départ canon, là, où tout le monde s'extasiait, et cette semaine-là, qui était un peu plus rock'n'roll pour elle, que ça donnait l'impression qu'une très courte lune de miel était déjà terminée. Et le deuxième commentaire que j'entendais, c'était « Elle ne peut pas se le permettre. Elle a, il faut qu'elle soit parfaite là, tout le temps, chaque jour, jusqu'à l'élection pour réussir. »
C'est vrai, ça?
Ben, peut-être, mais c'est pas réaliste.
Ben non, c'est ça.
Ça peut pas arriver en politique de gagner toutes les journées. Ça n'arrive pas, surtout quand tu es la cible de toutes les attaques. Puis on est dans un système politique où il y a plus de partis d'opposition, évidemment, que de partis au gouvernement. Donc, c'est pas réaliste d'attendre de Mme Fréchette de 100 % là, à tous les jours performer puis gagner la médaille d'or. Ça marche pas.
Donc, le discours qui revient beaucoup... Tu sais, il y a un discours qui revient peu à peu que, avec la CAQ qui remonte, qui regagne les 65 ans et plus, les 55 ans et plus, comme quoi Christine Fréchette pourrait redevenir première ministre en octobre. Considérant qu'elle peut pas être parfaite pendant toutes les semaines, tu réalises de penser qu'elle a des chances?
Ben, en fait, le problème avec la CAQ, c'est que c'est un peu tout ou rien. Parce qu'étant donné que c'est pas un parti qui a une base militante très forte, ben on a l'impression que soit il faut que ça prenne une swing, puis le monde dise oh, « on aime Mme Fréchette », puis le monde embarque dans le bandwagon, ou quand ça commence à détricoter, puis on l'a vu dans les 2 dernières années avec les sondages, la CAQ se retrouvait à 0 siège. Tu sais, le PQ puis le Parti libéral, il y a des gens qui ont leur carte de membre, là. Ils vont mourir avec leur carte de membre, tu comprends?
Oui, oui, puis là, l'île de Montréal va voter pour le Parti libéral, fait que t'as toujours un 18-20 comté.
Puis l'Est du Québec, bon, le PQ
là,
a déjà
PQ
eu des
a descendu à 3, mais là, on voit une tangente s'installer que le PQ dans les régions, l'Est du Québec va être très, très fort. On propose par texto mon oncle Picsou Milliard.
Oh!
Je trouve ça cool.
Picsou, ça fait cheap.
Ouais, t'as raison.
Je sais pas, moi, s'il est généreux. Je veux
oui,
pas
mais
juger.
Il va gérer les finances publiques.
Ben, écoute, on a peut-être besoin dit. D'être plus pixou.
On a besoin d'être plus pixou. Hey, je te fais écouter un petit montage. Ça comprend un député qui a dit « Moi, je sac mon camp. On joue à deviner c'est qui. »
Moi, je suis très confiante là, qu'on va pouvoir répondre aux préoccupations des Québécois.
Vous êtes confiant pour l'avenir?
On verra.
Très confiante pour la suite des choses.
On verra.
Celui qui dit « on verra » est celui-même qui avait fermé sa porte devant un journaliste quand on parlait de François Legault quand il y avait des démissions dans la CAQ. Et là, on lui avait demandé « est-ce que vous êtes le prochain à démissionner? » Puis il avait dit aussi « on verra » en fermant la porte. C'est Luc Provençal. Finalement, ouais. Luc Provençal quitte, mais il n'est pas tout seul. Mario Asselin, qui est un député dans son comté, des Rivières, Vanier, très, très, très apprécié. Isabelle Lecour. Bref, ça sort encore à pleine porte de la CAQ, puis il n'y a personne qui rentre.
Bien, c'est ça, puis on peut débattre ensemble de la bonne stratégie adoptée pour Mme Fréchette, mais moi, je trouve que ça a l'air un peu fou en ce moment.
Mm-hmm.
Parce que ça sort, ça s'en va. Il n'y a rien qui rentre de l'autre côté.
Non.
Donc, tu sais, puis il y a même eu le courriel. On a vu, la presse avait reçu une copie du courriel qui a été envoyé aux jeunes membres. Y a-t-il quelqu'un qui veut se présenter l'automne prochain? Donc, ce qu'on a comme info, ça donne une impression que le recrutement ne va pas bien. À tort ou à raison?
Ben oui, mais pendant ce temps-là, moi, sur mon Facebook, à chaque jour, j'ai un nouveau candidat du PQ.
Puis...
Tout le temps.
Et même Québec solidaire en passant.
Ben oui.
Et même le PCQ, et les libéraux, ça va très bien aussi. Donc, on a l'impression que la CAQ est comme 100 km en arrière. Bon, là, on pourrait se dire, OK, oui, mais de l'autre côté, est-ce que t'es pas mieux de tout évacuer mauvaise nouvelle, puis après ça, commencer à annoncer des bonnes nouvelles? Moi, ce que j'entends, c'est qu'on veut, pendant l'été, ah non, oui, mais le monde écoute moins.
Exactement, c'est là, là.
C'est pour ça
que je trouve que le PQ, même tu le disais, le PCQ ou le PLQ avec ici dans la région, Farnell, Morissette, Julie White et Maître Verret, c'est sorti au bon moment.
Ouais.
T'sais, tous les analystes politiques sont en onde, tout le monde en
ben
parle.
Oui.
Le monde est au travail. Ça cristallise
cette impression-là.
Ouais.
Puis, tu sais, le défi, c'est que c'est comme une boule de neige. C'est que si tu n'as aucune neige au départ pour qu'il y ait d'autres candidats qui s'agglutinent, tu sais, il faut donner le goût au monde d'embarquer dans ce qui a l'air d'être un train qui s'en va vers une victoire. Puis encore là, tu sais, tantôt, on disait, est-ce qu'elle peut redevenir première ministre, Christine Fréchette? Moi, je trouve que, en politique, on fait toujours semblant qu'on va gagner puis que c'est ça l'objectif. Moi, je pense que si Christine Fréchette réussissait à aller chercher une bonne députation, ce serait déjà une grande victoire quand on part de zéro. Mais évidemment, elle ne dira jamais ça. Parce que faut que tu demandes plus pour avoir moins, là, t'sais. Donc, tu peux pas commencer à dire, ah ben moi, t'sais, à 15 députés, je serais contente, comme par exemple le PCQ mm-hmm. peut le faire, parce que les gens risquent de faire, ah ben si c'est pas pour gagner, j'ai peut-être mieux de voter stratégique, voter pour... Ouais. Ce qui a le plus de chances de battre celui que j'aille le plus.
Mettons. En effet. En passant, tous les Québec solidaires qui disent au PQ, vous n'êtes pas assez inclusif, le PQ, puis on ne fera jamais la souveraineté avec vous. Ben moi, c'est drôle, ça doit faire 3, 4, 5...
Oui.
Candidatures péquistes qui sont issues de l'immigration.
Oui, absolument. Puis notamment quelques personnes d'origine plus maghrébine dans la région de Montréal et Laval.
Ouais.
Donc, mais tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle des spins. Tu sais,
oui, c'est ça.
On caricature les partis politiques. Les libéraux ont encore annoncé hier un candidat dans l'Outaouais. C'est, honnêtement, les candidatures, ça rentre. Hâte de voir si Mme Fréchette va être capable d'aller chercher des noms intéressants. Puis le problème, c'est aussi, plus on attend, plus on se dit, ah, mais là, il va arriver peut-être avec des vedettes.
Ben oui.
Fait que là, les attentes augmentent.
Mm-hmm.
Plus ça risque d'être décevant, alors que c'est peut-être des bons candidats. Tu sais, en passant, un bon candidat, c'est pas toujours une vedette.
Non.
Tu sais, on a besoin de gens qui viennent
ça
de toutes sortes de milieux,
d'horizons. Ça peut être quelqu'un de très ancré dans son milieu.
Puis il y a des gens qui n'étaient pas connus du tout avant de devenir député. Puis qui ont fait un super travail de député.
En plein ça.
Qui ont fait leur marque comme ça. Mais là, c'est juste que nos attentes deviennent de plus en plus mm-hmm. élevées. Puis il y a eu aussi, quand il y avait le nouveau conseil des ministres de Mme Fréchette, des rumeurs qu'elle essayait d'aller chercher des gens de l'extérieur pour avoir des ministres non élus.
Le fameux Guy Cormier, le fameux Olivier Primeau.
Puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, là, je voyais comme une zone de danger pour elle.
Le temps commence à presser pour qu'elle présente vraiment des nouveaux noms, puis des nouveaux noms qui ont du bon sens.
Oui, puis tu sais, il faut le dire aussi, M. Legault est allé chercher des candidatures très intéressantes au fil des ans.
Ben oui.
C'est sûr, en 2022, c'était plus attrayant. Tu regardes Québec 125, tu te dis quel comté gagnant veux-tu, puis c'est plus facile.
D'ailleurs, Christine Fréchette vient de cette campagne-là.
Absolument.
T'sais, j'ai mon chum Yannick Gagnon à Jonquière, qui était DG du patron de Jonquière. C'est François Legault lui-même qui est allé le voir.
Et voilà. Le chef a comme un
gros impact. Ben oui, parce que quand j'ai dit « Ah ouais, tu sautes en politique », il m'a dit « Ben ouais, mais là, il dit quand le premier ministre vient s'asseoir dans ton bureau? »
Eh oui.
Ben André Laforêt, du côté de Saguenay, c'était la même chose aussi.
Mmh. Recruté personnellement par
François Legault, qui est allé s'asseoir avec elle.
Quand le PM vient s'asseoir dans ton bureau, tu regardes les sondages, tu dis « Ouais, on va être majoritaire. Ouais, je vais pouvoir faire de quoi de bon pour mon comté. »
Ces temps-ci, quand la PM vient s'asseoir dans ton bureau,
ben, c'est ça.
Il y a 4 comtés prenables en ce moment, selon Québec.
Parce qu'en passant, Gabriel Nadeau-Dubois l'a sorti, son étude, en disant que dans le milieu scolaire, il y avait plus d'investissement dans les circonscriptions caquistes. Puis on va parler tout à l'heure de l'Hôtel-Dieu, mais je te dirais que quand je regarde l'île de Montréal, l'abandon des hôpitaux aussi, t'as pas mal en santé aussi quand t'es dans un comté caquiste, ça peut bien aller. Avant, on parlait justement d'immigration. On parlait de candidats issus de l'immigration avec le PQ. J'ai eu honte hier de voir une vingtaine de personnes masquées pour pas qu'on voit leur face.
Il y avait peut-être honte aux autres aussi.
Exactement.
Finalement.
Avec leur grande banderole, je me souviens d'un Québec blanc. Heureusement, tous les politiciens ont décrié la situation. Et vous m'entendrez jamais dire sur les ondes de Boulevard 101, « Ouais, mais là, il y a des groupes de Palestiniens qui font pareil. » Non, non, t'es con, puis eux autres sont caves.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, c'est 20 personnes. Mais c'est 20 personnes qui nous font vraiment mal paraître et qui représentent peut-être l'opinion aussi davantage de personnes, en fait, fort probablement. Là, toute la classe politique a dénoncé en fin de semaine. Il y en a un qui s'est fait attendre.
Ouais, Éric Duhaime, hein?
Oui, ça a été long, ça a été remarqué, d'ailleurs.
Ouais. D'ailleurs, excellente blague par texto qui est rentrée ce matin, un auditeur qui écrit « Si Éric Duhaime avait existé en 2006, il aurait dû ma cigarette, mon choix. »
Ah, ben oui! Ma top, mon choix, c'est sûr! C'est bien évident.
Ouais, puis ça, honnêtement, là, ce petit délai d'attente-là, là, tu vas me dire que je suis trop dans les fins détails, peut-être, mais peut-être pas, te connaissant, je pense que tu vas penser pas mal comme moi. Ça me laisse présager que quand il a vu ça, il a dit « Ah, ça pourrait être une pas pire spin pour nous autres. » Puis là, finalement, « Oups, OK, c'est beau, je vais sortir. » Tu sais, quand tu sors en dernier...
Ben, écoute, je vais faire une comparaison. Quand il y a eu les attentats... en octobre 2000.
Les attentats à la mosquée?
Non.
Non.
En Israël.
Oui.
Qui a vraiment parti le nouveau cycle de guerre dans la région.
7 octobre 2023.
Merci. J'ai dit 2024. Hein? Ben, ça fait déjà plus longtemps que ça.
Oui, c'est correct. Il y a pas
de suis comme toi, je suis surprise de voir comment le temps passe, Mathias.
Exactement.
Ça passe trop vite. Ça a été assez long avant que Québec solidaire dise quelque chose. Et ça avait été aussi remarqué.
C'est vrai, t'as entièrement raison.
Des fois, le délai, le silence parle davantage que les mots.
Mais c'est que ça montre que le parti a besoin d'un certain délai pour établir leur stratégie
message.
De communication. Mm-hmm. Puis pour des situations comme ça, où que dans le cas de Québec solidaire, des vies étaient perdues, puis dans le cas des conservateurs, où c'est un geste totalement inacceptable des racistes,
ouais.
Ça paraît mal de dire « j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que
c'est
je vais
ça,
vous
quoi
dire ».
À tu réfléchis,
ouais, c'est
dans
ça,
le fond. Mais probablement que tu veux trouver la bonne ligne pour pas choquer tes membres.
Oui, c'est ça.
C'est l'évaluation.
Ta base très, très, très partisane, ou je vais le plus le dire, très, très, très militante extrémiste. Puis il y a de ça dans le Parti conservateur du Québec. T'sais, dans Québec solidaire, il y a de ça dans le conservateur du Québec. Il a fait campagne la dernière fois, il y a 4 ans, en disant « N'avez plus une masque, puis la COVID, c'est imaginé. »
C'est le message de liberté. T'sais, la liberté d'expression pour les partis plus à droite, c'est très précieux, donc on veut faire attention, danana. Mais des gestes comme ceux-là, tu les dénonces directement. Puis j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le message de Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que lui aussi, en passant dans son parti, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, là, ils disent ça, mais tu sais, il faut dire que... » Puis ils vont essayer de le justifier.
Ben oui.
Puis tu sais, moi, j'ai travaillé au PQ. Il y avait une fois, de temps en temps, un journaliste qui trouvait un membre du PQ qui avait écrit sur Facebook une affaire un peu raciste, puis tout ça. Tu sais, le chef du PQ doit gérer ça aussi. Mm-hmm. Il y a des gens, des membres
en
du
effet.
PQ qui pensent de même, OK? C'est sûr et certain. Donc, il n'est pas seul, Éric Duhaime, mais PSPP a dénoncé sans réserve. Et même a fait un peu d'analyse puis de pousser un peu plus loin, parce que PSPP nous parle souvent de certains groupuscules dans la société. Là, il nous a parlé beaucoup des Frères musulmans,
ouais,
notamment. Mais il a parlé aussi de ces Active Clubs, comme Second Sons Canada, qui se cachent derrière des activités sportives pour recruter des jeunes dans des espèces de milices, groupes extrémistes un peu glauques, là, des groupuscules haineux, dit-il. Et il dit « Soyons unanimes et dénonçons vigoureusement ce racisme. » Pour lui, ça pourrait être plus facile de dire « Ouais, mais tu sais, mettons là les gens qui pensent de même. Ils ont-tu plus de chances de voter libéral ou voter PQ? » Peut-être que je pourrais éviter de les irriter puis rien dire. Ben non, il le dénonce.
Exactement.
François Blanchette, même affaire. En fait, tous les partis ont dénoncé. C'est juste que les délais ont été variables.
Ouais. Puis moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, je le redis, j'apprécie beaucoup sa transparence. Puis le fait est qu'il y a une lignée et celle-ci est la bonne. Tu sais, quand on le taxe d'être contre les immigrants ou etc. C'est pas vrai, c'est juste qu'il veut mieux gérer la situation.
Puis d'ailleurs, tu sais, tu me fais penser... Comment on agit face à cette polarisation-là? Puis quand on voit ce genre de personne-là qui tient des propos, tu sais, vouloir un Québec blanc, je me souviens d'un Québec blanc, tu sais, c'est dégueulasse, OK? Vraiment.
Vraiment.
Mais des fois, on a envie de réagir par d'autres extrêmes.
Ouais.
Tu sais, puis ça dépend de chacun, puis on le voit sur les médias sociaux, puis là, on va tomber dans des propos complètement à l'autre côté du spectre. C'est comme si c'est notre réflexe pour contrebalancer. Mais il faut toujours se rappeler que les extrêmes, on ne combat pas ça par d'autres extrêmes. On combat ça par de la modération et du dialogue social. C'est challengeant parce que ces gens-là, on n'a pas le goût de leur parler. Mais tu sais, c'est pas nécessairement de leur donner des tribunes puis de justifier ce qu'ils font. C'est beaucoup plus d'instaurer un contexte social dans lequel on est capable de débattre sainement puis de combattre cette polarisation-là. Mais c'est surtout pas... Moi, j'ai vu des commentaires en fin de semaine. C'est les politiques d'immigration de la CAQ et du PQ qui mettent ce climat-là.
Pantoute.
Il faut rester rationnel, les
amis. Oui, ça, c'est des extrémistes. Il y a un auditeur ou une auditrice par texto qui nous écrit dans son post X, Éric Duhaime parle du parti qui condamne, mais pas lui ni aucun de ses candidats personnellement. Ah. C'est vrai que ça peut faire une différence parce que les autres, me semble, j'ai lu « Je condamne vigoureusement ». Il faudrait revérifier. Pas de vérifier ça.
Ben, écoute, je sais pas si j'y vois un message subliminal, mais c'est vrai que quand t'as eu deux jours pour y penser...
Tu pourrais être plus affirmatif.
Ouais, mettons.
Exactement. Antonine, pour terminer le caucus, on écoute Geneviève Biron, la top gun de Santé Québec, la directrice générale, celle que ça nous prenait concernant l'Hôtel-Dieu de Québec. C'est une entrevue du 25 février 2026 sur les ondes de Radio-Canada.
Ça fait partie des réflexions. Alors, j'ai pas la réponse pour vous aujourd'hui, mais on comprend l'importance aussi de l'établissement, mais aussi de la communauté. Hein. On veut pas dévitaliser le secteur. Alors, puis je rencontrais le maire Marchand il y a quelques semaines, puis il me parlait aussi de cet enjeu-là. Alors, on est bien conscient là, que dans les prochaines années, on va devoir trouver une mission à l'établissement, puis s'assurer qu'on puisse, dans le fond, bien desservir aussi, puis et garder la vitalité régionale.
On est devant une page blanche pour la suite de la vie de l'Hôtel-Dieu?
On n'est pas devant une page blanche, mais aujourd'hui, c'est trop tôt là, pour vous parler des prochaines étapes.
OK,
25 février 2026, c'est trop tôt pour vous parler des prochaines étapes. OK, attends, 2016, on annonce le nouvel hôpital, le super hôpital à l'Enfant Jésus. On fait les constructions. 2023, je suis allé voir des beaux vidéos du ministère de la Santé puis de CHU Québec où on voit les gens déménager avec leur boîte, leur sourire. Bon, il y avait le masque à ce moment-là, fait qu'on voyait un peu moins le sourire.
Le sourire dans les yeux.
Mais là, des fist bumps, puis sont dans leur nouvel environnement de travail full technologique, puis sont super heureux.
C'est vrai que c'est beau, hein, l'Enfant Jésus?
Ben, c'est super beau, honnêtement. Moi, je suis allé à l'inauguration, c'est de toute beauté, puis ça nous prenait ça dans la région de Québec. Je décris pas ça du tout. Mais là, Boutillard, ça prend 10 ans, puis on sait pas encore ce qu'on va faire avec l'Hôtel-Dieu de Québec. Il se passe quoi avec cette maudite affaire-là?
Bon, d'abord, je vais pas jeter des cailloux à Geneviève Biron.
Ben non,
parce qu'elle arrive dans le dossier un peu tard.
C'est des cailloux à tout le monde qui ont été là avant.
Mais c'est juste, encore une fois, ça fait 10 ans qu'on parle de ça. Puis là, il y a eu quelqu'un qui a eu un éclair de génie pour se dire « Coudonc, c'en est où, cette affaire-là? »
Ben oui!
Le Gaétan Barrette, qui était ministre de la Santé à l'époque. Puis d'ailleurs, ça avait fait un grand débat à l'époque quand on avait dit « Bon, l'Hôtel-Dieu, on a stretché ce qu'on pouvait faire avec un vieux bâtiment dans le Vieux-Québec. »
Un bâtiment des années 1600. Là.
Écoute, moi, c'est drôle parce que 2016, c'est exactement l'année où j'ai eu un cancer.
Ouais.
J'étais traitée à l'Hôtel-Dieu. Donc, je connais cet hôpital-là de l'intérieur.
Par cœur.
Et c'est pas aussi scrap, mettons, que Maisonneuve-Rosemont, là.
Non, mais
c'était particulier.
Ma mère vient d'être traitée pour un cancer du sein à l'Hôtel-Dieu de Québec. C'est pas chic. Puis même, tu sais, pour les...
Ça fait pas high-tech,
mettons. Ben, même pour les personnes qui veulent accompagner, comme mon père, y a pas de place de parking, y a rien, tu sais, ben, te retrouves complètement...
L'emplacement est quand même aussi particulier. Puis on veut avoir... Tu sais, on veut pas que tout soit loin puis pas accessible à pied puis en transport collectif, mais... Tu sais, moi, en 2016, je me suis fait opérer une journée et le lendemain, je suis rentrée d'urgence pour des problèmes respiratoires. C'était le festival d'été que j'avais été opérée au mois de juillet. C'était fake électronique, les chums.
Aïe, oublie ça.
J'ai failli pas me rendre, là.
Ben, c'est sûr.
Puis là, je me disais, mon Dieu, mais ça a comme pas de bon sens, là. Puis je... les ambulances, ça devait être compliqué aussi. J'étais en auto avec mon conjoint. Mais bref, ça fait 10 ans. Il n'y a comme rien qui a avancé, ce qui a amené Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, à dire que c'était comme en train de devenir le troisième lien du milieu de la santé, finalement.
Exactement.
Donc, d'entendre que, ben là, il faut voir, il faut étudier, il faut évaluer la situation, la réflexion sur la future vocation du site est en cours, ben voyons.
On fait-tu exprès pour laisser ça aller, pour à un moment donné juste dire le bâtiment est désuet, on met les dans la porte?
Mais tu peux pas laisser aller ça. Si tu laisses aller ça, c'est des futurs problèmes.
Ben c'est ça.
Donc, j'ai tellement de misère à comprendre comment on peut laisser passer une décennie puis qu'il n'y ait même pas de plan. Tu sais, que ce soit pas fait en deux minutes, je veux dire, je comprends.
Ben oui.
Puis, veux pas, ça m'amène à me dire, comment ça se fait? Oh, c'est-tu une malédiction qu'on a à Québec?
Mm-hmm.
Qu'il n'y a rien qui aboutit?
En effet, parce que tu sais, je vois pas 100 millions d'options là, parmi les options qu'il y avait sur la justement dans les différents projets. Bon, on transforme ça en grande clinique médicale pour médicale avec des médecins omnipraticiens. Puis peut faire une maison pour les aînés en haut, on peut faire des logements, on peut faire
Montréal,
ce qu'on veut.
Ils se sont ramassés devant la même situation avec leur Hôtel-Dieu. À un moment donné, tout a été transféré dans le nouveau CHUM.
Ben, c'est ça.
Puis là, on trouve une nouvelle vocation, peut-être un peu plus modeste, parce qu'il faut le dire, là, c'est fine pointe. On traite des cancers compliqués.
Oui.
Dans un vieil hôpital. Il y a une clinique à côté, en passant, qui est très bien et très moderne aussi. Pas évident en voiture non plus de se rendre, mais qui est mieux. Mais là, tu sais, à un moment donné, si tu n'as pas de plan à long terme, tu finis toujours par t'embourber dans la même situation, puis ça devient de plus en plus compliqué d'effectuer des changements qui sont douloureux.
Exactement.
Et les remettre toujours à plus tard.
Mais tu sais, pourquoi c'est aussi simple que ça dans ma tête? Je me dis, il faut quand même que tu gardes un point de service de santé pour les habitants,
proximité.
De proximité, pour les habitants
avec
du centre-ville.
Urgence.
Fait que pour ça, moi, je veux justement une clinique ou une urgence, quoi que ce soit. Puis, on manque de résidents dans le Vieux-Québec. Fait que transforme-moi ça en logement, condo, puis c'est fait.
Ouais, là, ça, c'est l'autre affaire. C'est faire quelques travaux que ce soit dans le Vieux-Québec. C'est compliqué.
Ça, c'est clair.
C'est patrimonial, hein?
Ça, c'est vrai.
Puis il y a vraiment l'Hôtel-Dieu de Québec, c'est le plus vieil hôpital encore debout en Amérique du Nord.
Oui, mais j'aimerais ça pareil qu'on me dise après 10 ans, « Sais-tu quoi, on l'a évalué, ça, finalement, vu que le bâtiment est patrimonial, on ne pourra pas le faire.
Ben »
j'ai même pas de réponse à cette idée-là, qui peut-être n'est pas une bonne. Mais
Santé Québec
mais en 10 ans, ça n'a pas été étudié encore.
Puis à la limite, c'est-tu possible de faire une exception? Je sais pas, parce que c'est quoi de mieux de dire « Ah, on va rénover, mais on va... »
Mais Mathias, c'est une exception pour le plus vieil hôpital en Amérique du Nord, j'imagine.
Je comprends bien, mais je pense que c'est mieux que de laisser à l'abandon.
À l'abandon, comme on sait si bien le faire.
Par texto, une école médicale, pourquoi pas? T'sais, j'allais te dire, coudonc, on fait-tu le musée de la santé?
Mais là, c'est sûr, c'est un peu facile dans nos têtes, là, parce que j'imagine qu'il y a des complexités, mais je peux pas croire qu'après 10 ans, on n'a même pas un début de plan.
Oui, puis c'est le manque de transparence, je pense, aussi, là-dedans, moi, qui...
Ben, c'est comme si on espérait que tout le monde aille oublier, comme tu dis.
Oui, exactement. Puis, tu sais, le manque de transparence, qu'on soit pas 10 ans après à nous dire, « Bon, ben, on a étudié tel scénario, ça fonctionne pas, tel scénario fonctionne pas, tel scénario fonctionne pas. On est en train d'étudier ce plan-là. » Tu sais, quand Geneviève Duron dit, « Ben, on part pas de la page blanche, mais tout comme. » Ben là, c'est écrit, « Ça fait 10 ans. » Ça peut pas être une page blanche.
Puis c'est tout le temps un peu compliqué. Je pense qu'on peut faire une comparaison avec le nouvel hôpital qu'ils veulent construire en Outaouais, qui est l'hôpital de Hull.
Mm-hmm.
Là, il avait trouvé des terrains. Puis là, il y avait tout un groupe qui voulait que ce soit au centre-ville. Mais c'est compliqué, construire un nouvel hôpital dans un centre-ville. Mais là, le monde disait, oui, mais les gens qui n'ont pas d'auto, etc. Là, là, là. Après ça, il y avait un autre terrain qui appartenait à une compagnie. Puis là, il y avait des complexités parce qu'il y avait de la décontamination à faire, etc. C'est jamais simple. Mais à un moment donné, on se dit, bon, on va choisir nos problèmes. Il y a des problèmes dans toutes les solutions.
Ça.
Puis Christy, on va les
gérer.
On va
aller de l'avant, exactement.
Oui, avançons.
C'est, t'as raison. Avec la CAQ, on n'a pas beaucoup avancé. Puis Simon, je te mène nos textes. On va faire quoi avec? Ah, laisser le temps d'entrer en campagne électorale. Ouais, c'est parce que c'est la quatrième campagne qu'on va parler du troisième lien.
Ben...
Puis c'est pour ça que Gaétan Barrette fait le lien avec le troisième lien de la santé.
Il y a raison de dire qu'une campagne, ça oblige les partis à se positionner.
Je suis très d'accord, mais après ça, il faut aller de l'avant
beau faire des promesses, après ça, on laisse traîner ça, puis on refait la même promesse à la prochaine campagne.
J'ai envie de dire une chance qu'il y ait des journalistes pour talonner les politiciens, puis dire « Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Parce que je te dis qu'il y a des affaires qui tomberaient dans l'oubli. Là.
Clairement. Anthony Niacarini, on se reparle demain.
À demain.
Merci beaucoup. Après la pause, on fait un bloc nouvelle et on va également revenir sur quelques sujets d'actualité intéressants, notamment... Antonine, connais-tu le ZIN? ZYN.
Zone d'innovation. Non, c'est quoi?
Non, c'est un truc de nicotine que les jeunes.
Ah oui!
Zin.
Le ZIN!
Ouais,
ah,
zin,
j'ai appelé le ZIN, c'est le ZIN!
Le ZIN! Je savais pas c'était quoi, le ZIN!
Ben oui, mais excuse-moi, je suis trop vieux, crème 46
ans. Je pense que c'est très scandinave, ça. Hein? Les Suédois se mettent ça dans les joints.
Oui, mais là, ça cause un gros problème parce que, t'sais, on vient de parler de la cigarette qui est abolie. On est passé en passant, les amis, de 25 % de la population qui fumait en 2006 à 11 % en 2026. C'est une
c'est
exceptionnel, c'est magique pour la santé de notre population. Mais là, le ZIN, là, il fait son apparition, puis lui, il scrape la santé de nos jeunes. Pas juste la santé, les dents aussi, puis tout le kit. Ah! Dégueulasse, on va parler de ça, parce que ça me lève autant de cœur qu'avoir une cigarette dans un bar en 2006. On en parle après la pause.